Europe 1, la libre antenne, Sana Blanger. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous accompagner dans la libre antenne d'Europe 1 et j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour une libre antenne où vous pouvez libérer la parole parce que ça fait du bien, je ne le répéterai jamais assez. Vous le savez, la libre antenne est votre émission. Chaque soir de cet été, j'ai décidé de partager avec vous un mot qui m'a marqué ou m'a inspiré dans la journée. Et ce soir, j'ai choisi le mot épanouissement. Je commence malheureusement par une mauvaise nouvelle, mais l'épanouissement n'est pas un état spontané qui nous viendrait de je ne sais quel don du ciel. Au contraire, c'est un état qui se travaille au quotidien. Cependant, comme tout travail, il demande des efforts. D'ailleurs, avez-vous réfléchi à comment vous épanouir? Je vous mets sur une piste. Gérez mieux votre temps. Maîtrisez vos revenus et vos dépenses. Entretenez votre corps autant qu'il vous est possible afin d'avoir de l'énergie. L'épanouissement passe donc par la réalisation d'un objectif personnel à définir dans sa vie et qui s'attache à trois composantes majeures : le temps, l'argent et l'énergie. De votre côté, comment voyez-vous les choses ? Avez-vous des suggestions à proposer à nos auditeurs pour atteindre l'épanouissement ? Appelez-nous au 3921 pour partager vos expériences, votre avis, vos histoires de vie, vos coups de cœur et vos déceptions. Si vous souhaitez participer à cette chaîne d'amitié qu'est la Libre Antenne par SMS, il vous suffit de composer le 739-21 en commençant par le mot « nuit » ou de nous écrire par mail libreantenne@europe1.fr. Adrien et Bastien sont prêts, ainsi que Julien Blanc, qui réalise l'émission ce soir. Donc Adrien et Bastien au 39-21. A tout de suite sur Europe 1.
Sana Blanger vous écoute sur Europe 1.
Je commence l'émission par un petit message que j'adresse à Valérie. Valérie, notre médecin radié de façon ubuesque, qui nous a contacté hier soir et qui cherchait des solutions. Alors Valérie, vous nous avez dit écouter l'émission tous les soirs. Eh bien s'il vous plaît, rappelez-nous, car votre téléphone semble totalement coupé. Nous n'arrivons pas à vous joindre, ou alors écrivez-nous par mail afin que nous puissions donc vous transmettre les informations et les coordonnées que nous avons reçu de personnes qui souhaitent vous aider. Vraiment, on a été assaillis de messages. Donc s'il vous plaît Valérie, si vous nous entendez, eh bien rappelez-nous au 39-21. Accueillons tout de suite Sophia. Bonsoir Sophia.
Bonsoir Sana, merci de me prendre dans votre émission.
Eh bien c'est normal. Qu'est-ce qui vous arrive Sophia?
Eh bien en fait, je souhaitais parler de mon hypersensibilité.
Oui.
Et puis de scénarios, j'ai l'impression qu'ils se répètent avec des manipulateurs. Et donc ça me perturbe et je ne sais pas comment faire face à ce type de personnalité en fait.
D'accord.
Et je pense que j'ai vécu beaucoup de choses difficiles déjà. Enfant, je pense. Enfin, mon père était. On entend beaucoup parler de pervers narcissique.
Oui.
Donc voilà.
Qu'est-ce qui vous fait penser, Sophia, que votre père était un pervers narcissique?
Tout simplement parce que ma sœur a subi des attouchements de ce père en fait et. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans chez mes parents.
Et, oui.
Il était assez rabissant, il était assez critique, assez colérique.
Oui, donc le sentiment d'être sous l'emprise.
Oui, il était tout le temps dans la culpabilisation.
Oui.
Ils étaient très, en apparence, très religieux. Mmh. Et puis, il utilisait beaucoup la religion pour nous culpabiliser, pour nous faire ce qu'il voulait. Enfin, il était autoritaire, il était...
Je comprends. Et votre mère n'a jamais... Voilà. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire, votre maman?
Ouais.
Pardon?
Elle était complètement soumise.
Oui, sous emprise.
Moi, à l'âge de 20 ans, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle parte. Et elle ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Et ça a été... c'est encore difficile pour elle avec lui, de toute façon. Donc on est une grande fratrie. On a essayé de lui faire comprendre certaines choses, mais elle ne pas. Donc maintenant, on fait avec.
Je comprends.
Et puis, moi...
Et votre sœur est la seule, pardonnez-moi Sophia, je vous pose plein de questions, hein, forcément. Votre sœur, pardon, est la seule à avoir subi ces attouchements ou il y en a d'autres?
Oui, d'accord. Il me semble qu'il n'y a que ma sœur, mais même si on ne subissait pas directement, on subissait par le regard, le comportement, attitudes,
la violence psychologique.
Le traitement intrusif aussi. Il venait fouiller dans ma chambre, dans mes affaires. Enfin bon, je pense qu'on est toutes passées. Donc j'ai quand même vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, de façon pas très sécure en fait.
J'allais vous dire, voilà. La peur. Ouais. La peur présente, c'est n'est-ce ça. Pas? Oui, je comprends. Je comprends parfaitement. Ce qui a développé donc chez vous une hypersensibilité?
Et je crois que c'est ça. En fait, je le sais que depuis peu que je suis hypersensible. Et en fait, j'ai appris à cerner les gens, à ressentir des choses par le silence.
Je comprends.
Ensuite, je suis partie de chez mes parents, j'ai fait des études. Et puis, je suis rentrée dans une entreprise et là, j'ai... subi, pareil, du harcèlement moral par un responsable. Donc, ça ne s'est pas très bien passé. Donc, je me suis fait muter, je suis partie. Et en même temps, j'étais aussi avec un petit ami qui était pervers narcissique aussi.
Ah oui.
On dirait que ça nous poursuit. Mais ça ne se voyait pas, en fait. C'était beaucoup dans la subtilité, en fait. C'était, avec lui, on se voyait que les week-ends.
Alors, Sophia, le terme pervers narcissique, ou en tout cas le comportement, est-ce que vous vous en rendiez compte après, ou du moins à quel moment est-ce que vous vous disiez « mince, je suis sous l'emprise et j'accepte la situation ?»
Alors, moi, j'ai appris ce terme-là il y a 17-18 ans, je vais être en fait, je suis ce que ça voulait dire. Et je vais lire un livre
Les Loyens. On vous entend très, le son n'est pas...
Ouais. D'accord. Je disais que j'avais lu le livre de Madame Éric Goyen.
Oui, lequel?
Le harcèlement moral au travail.
D'accord.
J'ai lu « Les manipulateurs sont parmi nous » de Isabelle Nazaraga.
Oui.
Je sais ça depuis un peu plus de 15 ans. Et puis, j'ai revécu du harcèlement dans la même entreprise, parce que j'ai quand même passé 21 ans avec une femme qui... là, j'ai su tout de suite. J'ai su tout de suite qu'elle était tordue. Et puis, elle a eu ma peau, puisque je suis partie, j'ai quitté l'entreprise parce que c'était plus possible.
21 ans.
Et 21 ans dans la même entreprise.
Vous avez accepté la situation pendant 21 ans, Sophia?
Non. Je l'ai eu comme responsable en 2016.
D'accord.
Jusque 2018, ça a duré.
Deux ans.
Je suis quand même partie... Je suis partie faire une formation pour échapper à ces griffes. Et puis à mon retour, c'était encore pire, même si c'était plus ma responsable. elle avait décrété qu'elle allait me détruire, quoi. Et c'est ce qu'elle a fait.
Ah oui.
Et j'ai sombré dans une dépression et du coup, j'ai décidé de quitter l'entreprise parce que sinon, c'était toute ma vie, j'allais y passer, j'allais être en dépression toute pour le restant de ma carrière, quoi. Donc j'ai
qu'est-ce que vous exerciez comme fonction?
J'étais commerciale.
Commerciale. D'accord.
Dans une administration, en fait.
D'accord.
Une grosse administration de chemin de fer. Voilà.
D'accord. Pour ne pas la citer. Ouais.
Voilà.
Est-ce que ça vous plaisait comme métier?
J'avais fait le tour depuis quelques années. J'avais envie de changer, mais en fait, l'entreprise changeait aussi. Ça a été privatisé. Enfin, c'était un harcèlement général. Hein. C'était partout. J'allais dire, c'était un peu la France Télécom, si vous voulez. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais malheureusement, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. On n'a fait que taire, on n'a fait qu'étouffer ce qui se passait dans l'enceinte de l'entreprise. Donc, j'ai retrouvé, avant de partir, j'ai quand même cherché du travail. Donc, j'ai trouvé assez rapidement. Et puis, je ne me suis pas vraiment plu. Donc, j'ai rechangé. Et puis, ben là, ça fait quelques temps que je suis dans une entreprise où ça fait presque bizarre de voir des gens normaux.
Et non pas tordus, comme vous le dites.
Ouais. Mmh. Et... enfin, il y a toujours des avantages et des inconvénients, hein, c'est sûr. Mais je ne sens pas cette toxicité que je ressentais à l'entreprise d'avant et là où je suis restée pendant plus de 20 ans. Et puis, donc ça fait quelques années que j'habite à la campagne. J'habitais dans une grande ville et puis je suis arrivée à la campagne. C'était un petit peu compliqué, mais je n'étais pas habituée. Et puis, j'ai rencontré des gens... et sympathiser avec certaines personnes, et puis les parents des enfants.
Mmh.
Et puis là, je suis encore tombée sur une personne comme ça. J'ai su tout de suite qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais je n'arrivais pas à savoir. Je ne me dis pas, je vais avoir affaire à un pervers narcissique à chaque fois.
Mmh.
Mais... je sentais qu'il y avait quelque chose, parce que cette personne-là était très mystérieuse, elle ne se racontait jamais, c'était tout le temps superficiel, elle critiquait beaucoup les gens, l'année dernière, donc quand j'ai décidé de changer d'emploi et de changer de vie, en fait, elle a commencé à balancer des pics gratuitement, comme ça, chez moi. Une fois, deux fois, et puis...
alors que ça se passait bien avec vous, à la base.
Ça se passait bien, mais en fait, quand il n'y avait pas d'échange, si vous voulez, hormis quand on se voyait au fait de l'école, et puis chez les uns, chez les autres, pour les anniversaires, moi j'ai tenté de créer du lien avec elle, mais je sentais qu'elle ne voulait pas. Elle ne répondait pas à mes SMS, enfin bref, donc j'ai laissé tomber.
Oui.
Puis en fait, il y a des gens avec qui vous créez du lien tout de suite, il y a quelque chose qui colle.
Mm-hmm.
Et là, il y a quelque chose qui ne prenait pas. Et j'avais du mal à comprendre, j'en avais parlé à mon mari, puisque c'est mon mari qui avait sympathisé avec son conjoint. Et puis, dernière soirée...
J'allais dire, et l'hypersensible que vous êtes, Sophia, devait insister, forcément. Un hypersensible insiste, hein, puisque justement, j'allais dire, nous sommes des créateurs de liens, mais toujours à chercher et à comprendre le mal-être des autres et faire en sorte, justement, c'est l'introduction, le mot du jour, c'est l'épanouissement. L'hypersensible cherche très souvent à épanouir les gens autour de lui.
Pense que je suis comme ça. Je suis plutôt quelqu'un de... enfin, je suis une bonne vivante. J'aime bien recevoir. J'aime bien faire la fête. J'aime bien que ce soit des ondes positives.
Mmh.
Et ça me fait bizarre quand il y a quelqu'un qui arrive et bam, ça me coupe l'herbe sous le pied, quoi. Je comprends pas. Complètement déstabilisée.
Ouais.
Complètement.
Ouais, et puis vous deviez comprendre pourquoi. Vous aviez certainement cherché à comprendre pour quelle raison cette personne est comme ça.
Et donc, elle a commencé à s'attaquer à mon âge. Pourtant,
il n'y
a pas grande différence, mais bon, voilà. Ma musique, ma cuisine. Et puis après, elle s'est carrément mise à manipuler les gens chez moi en leur disant que, de façon très sournoise, qu'ils étaient là pour profiter. Que tout le monde était là pour profiter.
Et vous ne disiez rien. Ça a coupé, Sophia. Vous ne disiez rien?
Non, j'ai rien dit.
Ah, oui.
J'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi. J'ai vu aussi son manque d'empathie, puisque il y a 2 ans de ça, j'ai fait une grave pneumopathie juste avant le Covid.
Oui.
Enfin, je suis allée aux urgences 6 fois. Elle n'a jamais pris mes nouvelles. Elle ne m'a jamais demandé ce que j'avais. Enfin, je ne comprenais pas. J'étais déstabilisée. Je me disais, mais quand même, c'est étonnant, quoi. Je trouvais ça très bizarre. Et puis là, la fameuse soirée, c'est pareil. Elle était chez moi. Je n'étais pas bien. Je me suis... J'ai rendu. Elle était à côté de moi. Elle n'a pas bougé. Et là, ça m'a complètement... Je me suis dit, bon, ça suffit. Je les ai laissés. Je suis allée me coucher. Et puis, je me suis réveillée très énervée à 4h du matin. Je n'ai pas dormi, en fait. Et j'ai juste envoyé un message sur WhatsApp en disant que j'avais mis beaucoup de cœur à organiser cette soirée, que, enfin, voilà, j'avais fait plein de choses et je leur ai dit, bon, la prochaine fois, je ferai une formation de DJ pour éviter de passer de la musique de vieux, parce que c'est ce qu'elle me reprochait. Pendant la soirée, personne, il n'y en a pas une qui est venue me voir ou demander où j'étais ou ce que j'avais, rien. Donc, j'étais pas bien et... j'ai envoyé un message à cette fille-là en lui disant que parce que je pensais qu'elle était tout le temps dans la critique, qu'elle se prenait pour le centre du monde.
Ah, vous lui avez écrit cela quand même?
Ah oui, je lui ai dit. Oui.
Ah oui, vous l'avez verbalisé.
Ah oui.
Ouais, non, parce que justement, j'étais en train de... Je prends des notes, hein. Je vous écoute et je prends des notes et je me disais quand même, là, il y a une auto-flagellation à se dire à 4h du matin, envoyer un SMS au lieu de lui dire, je trouve votre attitude absolument ridicule, à plutôt écrire en disant, voilà, je vais prendre un stage de DJ pour ne pas passer ma
c'était
musique.
C'était ironique.
De... Oui, bien sûr.
C'était de l'ironie.
Et rien que ça, déjà, c'est alimenter les personnes en face. Mais vous l'avez fait, je vous rassure, hein, je ne vais pas vous culpabiliser, ce qui est fait est fait. Mais c'est très intéressant dans l'approche.
Et donc, je lui ai dit, tu voulais ma place chez moi, je t'ai laissé ma place. Par contre, je lui ai dit, tu es quelqu'un d'indigne. Voilà.
Ah. Waouh.
Voilà.
Le mot est fort.
Ah oui. Ouais, mais je crois que j'ai tapé juste là où il fallait. Et en fait, maintenant, ils veulent me faire la peau. Parce que je pense que le couple est comme ça. Les deux sont comme ça.
Alors, vous nous avez parlé d'une amitié, entre guillemets, naissante, une complicité naissante entre votre époux et le mari du couple. Est-ce que pour les deux... La relation était pareille, avilissante, ou est-ce que non, ça n'avait strictement rien à voir? Comment ça se passait?
Alors, je ne peux pas vous dire, parce que les hommes se voyaient plutôt
à l'extérieur,
dans les matchs de sport. Ils avaient l'air de plutôt bien s'entendre, mais en fait, moi, avec le recul, même si je n'ai pas beaucoup, parce que c'est pareil, son mari, quand il venait à la maison, il ne me parlait jamais. On ne parlait pas.
Ah,
il
n'y
avait
d'accord.
pas de conversation avec lui. Alors, on était plutôt entre filles en train de discuter, tout ça, les gars entre gars. Et j'ai remarqué que jamais il ne me parlait. Donc, pour moi, c'est parce qu'elle est jalouse. Je pense qu'elle ne doit pas supporter J'ai ressenti ça, de la jalousie. Et entre mon mari et le sien, mon mari est beaucoup plus subtil parce qu'en fait, il joue le rôle de quelqu'un de très timide, de réservé. Et en même temps, il se met tout le temps en avant dans toutes les associations pour être président. Enfin, après, ça c'est mon point de vue. Mais il fait en sorte que les gens le sollicitent, le poussent à faire de la représentation, tout ça. Et en fait, alors par hasard, j'ai su quelque chose de très grave, les concernant, dont ils ne nous ont jamais parlé. Et en fait, j'ai pas envie de dire quoi, en fait, c'est douloureux pour eux, en tout cas, c'est compliqué, donc j'ai pas envie de le dire.
Vous l'avez su comment, Sophia ?
Ben en fait, c'est la manière dont elle a abordé le sujet, de façon gênée et en riant aussi, qu'elle nous a annoncé quelque chose de très grave. Et moi, je suis assez sensible. Il y a des trucs, des flashs qui me reviennent comme ça. Du coup, j'en ai discuté avec une amie qui connaissait sa mère. Et donc, elle m'a raconté ce qui s'est passé.
Oui.
Et je ne sais pas s'ils ont peur que je sache leur secret.
Donc, elle savait que vous saviez. Ou il savait que vous saviez.
Je ne sais pas.
Oui, vous ne savez pas.
Bah, en fait, le fait de lui avoir dit qu'elle était indigne, bah, ça tapait dans le mille, en fait, de ce qui leur est arrivé.
D'accord.
Bastien vous a peut-être dit...
Hors antenne, oui, il m'a expliqué. Donc,
ouais.
Moi, je sais ce qui s'est passé, effectivement. Donc plutôt situation plutôt grave.
Ouais.
Bon. Donc.
Et en fait, pendant ces soirées, donc moi je passais pour la petite vieille parce que je rentrais à 1h du matin. J'ai quand même 3 enfants et j'aime pas être fatiguée. Et, j'aime bien être aussi en forme pour occuper mes enfants. Et eux, lors des soirées, il fallait presque les chasser.
Sophia,
sinon, ils ne partaient pas.
Sophia, pour quelle raison est-ce que vous vous êtes imposé leur présence ? Qu'est-ce qu'ils vous apportaient ?
Ben, en fait, j'étais plutôt dans une dynamique positive à la fin de l'année parce que je changeais de travail, j'allais bien, j'avais envie de partager ça avec eux. Moi, je ne suis pas originaire de là où j'habite, donc je n'ai pas beaucoup de famille, je n'ai pas beaucoup d'amis ici dans le secteur. Et c'était un peu, quand j'investis dans la relation, je l'investis peut-être un peu beaucoup. Et en face, ils ne sont pas forcément honnêtes et sincères, quoi.
Est-ce qu'ils ont des amis, ces personnes ? Est-ce que ces personnes ont des amis ?
Je ne crois pas, non. Non. Non, je ne crois pas.
Et selon vous, pour quelle raison est-ce que vous avez accepté, entre guillemets, cette amitié ?
Eh bien, en fait, c'est eux qui sont venus vers nous, parce qu'en fait, elle a 2 enfants, donc le plus grand est dans la classe de mon petit garçon. Et il était presque autiste quand il était petit. Il était d'une timidité maladive, et si mon fils n'était pas là, il sortait pas de la voiture, il voulait pas aller à l'école, il voulait pas. Quand on accompagnait notre enfant à son sport, le petit garçon était dans la voiture, tête baissée comme ça. S'il voyait Zachary, il sortait. Sinon, il restait dans la voiture et puis il parlait à personne, quoi. Et donc, ils doivent chandelle à mon fils, parce que leur fils, justement, s'est épanoui grâce à mon petit garçon, qui est très ouvert, très gentil, et il a beaucoup d'empathie aussi, et il est très sensible.
À se demander de qui il tient.
Ouais, les 3 sont comme ça.
Et
du,
oui.
Du coup, en fait, ils nous ont approchés de cette façon-là.
Oui.
Et aussi, donc, moi, j'invitais souvent les enfants. Elle, pas trop, en y avec du recul, pas trop, parce que je pense qu'elle avait peur qu'il arrive quelque chose.
Oui. Alors, vous nous avez dit que, clairement, ils vous ont menacé, c'est cela ?
Ouais.
Bon.
Ils m'ont intimidé.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse juste une petite pause et puis on se retrouve juste après pour en parler. D'accord ?
Ok.
À tout de suite sur Europe 1.
La libre antenne d'Europe 1. Sana Blanger accompagne vos nuits.
Sophia, vous avez donc reçu des menaces de ce couple indigne, pour reprendre exactement vos propos. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit clairement ?
Justement, ils n'ont rien dit en fait. C'est l'anniversaire de mon petit garçon, donc je ne pouvais pas priver mon fils de ne pas inviter ses copains.
Oui.
Donc j'ai pris sur moi, on les a invités, ils sont venus, ils ont été exécrables. Il y a une maman qui a ramené les deux enfants qui est venue jusque dans ma cuisine sans me dire bonjour. Et puis, au retour, je pensais qu'elle reviendrait les chercher. J'ai dit à mon mari, tu te débarrasses d'elle, tu la laisses au portail. Et puis, voilà. Et le soir, c'est le papa, c'est le mari de l'autre qui est venu. Donc, il est venu dans mon jardin. Il s'est passé pendant 45 minutes dans le jardin, faire le tour du jardin, discuter avec les parents des enfants qui étaient là. Et puis, il ne nous a pas dit bonjour ni à moi ni à mon mari. Et puis, une paire de fois, il s'est présenté devant moi en me regardant et en restant comme ça pour que... En fait, il voulait le conflit pour se faire passer pour une victime. Au lieu de tout, c'est me faire passer pour une folle.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Pas rien. On a servi tout le monde, sauf lui. Et puis, au bout de 45 minutes, il est parti. Bredouille.
D'accord. Voilà. Mais ils vous ont néanmoins menacé, hein, vous nous avez dit.
Menacé, là c'était une façon de c'était de la provocation aussi. Et là encore, pendant les vacances, mon mari ne voulait pas me dire. Ils ont envoyé une carte de leurs vacances à mon petit garçon, alors que nous on leur a dit qu'on ne voulait plus de contact. Donc il y a un souci, enfin, y a un problème.
Ah oui. Alors, comment est-ce que je peux ou comment est-ce que nous pouvons vous aider en fait ? Quelle est votre demande exactement, Sophia ?
En fait, c'est une situation qui me remet dans le même état de stress que j'ai été quand j'ai subi du harcèlement.
Oui.
Je remue, je passe en boucle dans ma tête et je me dis, on ne va pas arrêter lui. Mon mari ne veut même plus aller aux fêtes de l'école, tout ça pour les éviter, quoi.
Ah oui.
Donc je sais pas quoi faire.
Oui, et puis je vois bien le stade d'après, c'est de se dire, on va déménager parce que la situation est devenue invivable.
Non, il n'y aura pas jusque-là puisqu'ils habitent quand même pas à côté de nous.
Mais, d'accord.
Non, mais ce qu'ils essayent de faire, en fait, c'est d'aller raconter des choses à mon sujet pour me faire une mauvaise réputation. Et en fait, si vous voulez, ce que moi j'ai compris avec elle, c'est... du fait de ce qui leur est arrivé, elle essayait de me bazarder tous ses défauts. Tous ses défauts et de gonfler. En fait, ils nous ont utilisés pour gonfler leur ego et pour réapparaître pour des gens bien dans la ville, quoi. Grâce à nous, en fait.
Puisqu'ils n'avaient pas d'amis. Pas de relation, finalement.
Ils se sont cachés. Je pense qu'ils se sont cachés pendant des années. Ils habitent en campagne, ils sont cachés pendant des années et en nous fréquentant, parce que mon mari, il est praticien dans la commune.
Hein. D'accord.
Donc tout le monde nous connaît, tout le monde sait où on habite, enfin bref. Et du coup, ils sont venus vers nous pour réhabiliter leur image, en fait. Et
d'accord.
Puis moi, je leur ai présenté d'autres personnes, tout ça. Et du coup, ils ont remonté toute cette équipe contre moi. Et maintenant, c'est moi qui suis pas normale, en fait.
Alors, est-ce qu'on est venu vous le dire ou est-ce que c'est juste un ressenti, Sophia ?
Alors, c'est pas un ressenti, c'est juste que je m'étais confiée l'une d'entre elles que je croyais proche de moi, parce que vraiment j'avais ce sentiment qu'on était proche et qu'en fait je vais raconter des choses personnelles.
Oui.
Puisque j'ai fait une grosse dépression. Mmh. Et je suis allée une semaine, je me suis fait hospitaliser une semaine à l'hôpital psychiatrique. Mmh. Et du coup, elle a été leur dire et pour me faire passer pour une dingue, quoi.
Alors, je voulais vous demander quelque chose. Lorsque vous rencontrez une personne qui n'est pas une proche, hein, et qui va vous raconter les histoires personnelles de personnes que vous côtoyez juste comme ça, quel avis vous pouvez avoir ou quel avis vous allez porter sur ce genre de personne, enfin, ce comportement? Si moi, par exemple, je viens vous
raconter... Ce n'est pas quelqu'un de fiable. Hein.
D'accord. Donc, imaginez, imaginez cette personne allant raconter à tout le monde votre histoire. Est-ce que vous pensez véritablement que, si l'on est intellectuellement bien constitué, et je dis bien intellectuellement bien constitué,
oui.
Est-ce que vous pensez que je vais avoir une bonne ou un bon avis vis-à-vis de cette personne?
Si, comme vous dites, les gens sont normalement constitués, mmh. Bien constitués intellectuellement, bien constitués aussi, normalement, on s'est dit, c'est pas quelqu'un de fiable. Et c'est,
d'accord.
C'est une connerie, quoi. Enfin, je sais pas.
Eh bien, justement,
c'est
Sophia.
C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance.
Donc, moi, je me dis, au pire, ça vous éloigne des imbéciles et des crétins.
Exactement. C'est ce que je veux dire.
Au mieux, vous avez des relations de qualité avec ceux qui, au contraire, viendront vous voir en vous disant, il s'est passé ça. Ça, et ça, et ça. En tout cas, c'est...
Oui, c'est certain, c'est sûr.
Oui, c'est...
C'est sûr qu'en allant raconter ce genre de choses,
ben oui.
ce seront les premiers à ne pas lui raconter, pas raconter leur vie à cette fille-là, ça c'est sûr.
À l'éviter, ou en tout cas à être dans une forme de convenance, voire d'hypocrisie, vous voyez, affichée comme ça.
Hypocrisie totale.
Donc, si votre crainte est qu'on vous fasse passer pour
folle...
Ah non,
je n'ai pas du tout de crainte.
Voilà, alors, d'accord.
Je n'ai pas du tout de crainte par rapport à ça.
Alors, quelle est votre crainte? Ah oui, ça c'est encore autre chose. Après, effectivement, malheureusement, la bêtise est un fléau qui ne se soigne pas.
Ouais. D'autant plus que son mari est médecin, donc bref... La vie ne fait pas le moine, mais...
Non, ça serait sinon. Hein.
Non, elle a baissé dans mon estime alors que quand elle a été malade, j'étais là, j'étais présente, je faisais à manger pour elle et ses enfants. Enfin, j'ai toujours été présente. Et du jour au lendemain, d'un revers de main, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Et je pense que...
Mais votre pneumopathie, déjà, quand vous êtes tombé malade, ça pouvait être déjà un signe pour vous dire attention, prenez un petit peu plus de distance avec cette personne. C'est comme lorsqu'on est déçu des amis, ou eh bien, au lieu de rompre totalement, on peut rétrograder un petit peu l'amitié en se disant bon, bah, on passe d'amis à copains en fait. Hein. Ça peut marcher également au lieu d'aller vers une rupture qui n'est pas forcément bien vécue.
Mon mari était attaché à son mari. Il était attaché à cette amitié qu'ils avaient entre les hommes, quoi. Et je sais que ça lui a fait beaucoup de peine. Hein. Et je ne peux pas lui en parler parce qu'il s'offusque, qu'il ne veut pas parler de ça.
Écoute,
je lui ai dit...
Ouais. Oui, mais bon...
Il ne veut rien savoir, on coupe les ponts et puis et basta. Et il n'essaye pas de... Enfin, après, je ne sais pas ce qu'il pense dans sa tête, mais je lui ai fait un résumé de tout ça, quoi, qu'on a été utilisé, qu'ils n'étaient pas sincères, qu'ils voulaient juste profiter de nous.
Quelle fut sa réaction et quelle fut sa réaction à votre époux? Il veut pas en entendre parler, c'est ça?
Il me dit non, il est sous l'influence de sa femme. Mais moi, je pense qu'ils sont tous les deux comme ça. Et je voulais juste rajouter aussi que quand on faisait des soirées, alors eux, je savais qu'ils repartaient au petit matin, alcoolisés, avec leurs deux gamins derrière. Ça aussi, c'est un truc qui m'a, c'est quelque chose qui m'a heurté aussi, quoi. Je comprenais pas.
Oui.
Donc non, c'est pas des gens pour moi. Je le savais dès le départ que j'avais rien à voir à faire avec avec ces gens-là.
Encore une fois, là, je reviens sur votre première question qui est. Pour quelle raison est-ce que j'attire des gens comme ça ? Eh bien, parce que vous l'acceptez, parce que vous avez grandi également dans un environnement qui, finalement, pour vous, c'est presque naturel. Donc, néanmoins, maintenant que vous avez développé votre hypersensibilité, maintenant que vous écoutez un petit peu plus votre intuition, vraiment, et si ça clignote, eh bien, vous savez qu'à l'avenir, n'allez pas vers, justement, pas les problèmes, mais mettez-vous soit sur le bas-côté ou en retrait en vous disant « Oula, non, je n'y vais pas, je ne sors pas ma cape de super-héros » en me disant « C'est parti, je vais essayer de les aider, stop !»
Ah non, j'ai jamais essayé de les aider. On passait juste des soirées ensemble, c'était bon enfant, etc. Et en fait... Ouais. J'ai ressenti à un moment donné qu'il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, que ce soit dans mon rôle de mère, que ce soit le fait que j'ai le courage de partir et de changer d'entreprise. Enfin, c'était un tout, quoi. Je l'ai senti, je l'ai vraiment ressenti au plus profond de moi. Pardon. J'ai dit stop, quoi. Il y a un moment donné, j'avais dit à mon mari, j'ai dit il y a un truc qui ne va pas, et puis il ne m'écoute pas non plus, il me dit oui, non, laisse tomber, c'est pas grave. Je lui ai dit la prochaine fois, quand je te dirai que je ne sens pas cette personne-là, c'est pas la peine d'insister. Ou alors, tu la ramènes pas à la maison, et puis c'est tout, quoi.
Oui, s'il a envie, lui, de fréquenter une personne, pourquoi pas, après, libre à lui ou libre à vous également d'accepter ou pas. Maintenant, ça peut mettre de la tension dans votre couple et ce serait quand même dommage.
Mais effectivement. C'est ce qu'ils ont essayé de faire aussi.
Oui.
C'est ce qu'ils ont voulu.
Non, mais c'est pour cette raison, Sophia. Faites-vous confiance, écoutez vraiment votre intuition. Et je suis certaine qu'à l'avenir, vous aurez vraiment moins de. Enfin, pas moins de soucis, mais. Vous serez à l'abri, voilà. Et même sur le plan du travail, parce que là, ça peut de nouveau se représenter. Et l'hypersensible, c'est quelqu'un qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup sur lui. Et d'ailleurs, en tout cas, j'ai presque envie de dire, la proie du pervers narcissique, c'est la personne qui a l'intelligence, la timidité ou la gentillesse de prendre beaucoup sur elle.
Et voilà. Oui, je sais. Et j'avais aussi justement ce sentiment que pour elle, ma gentillesse et ma générosité n'étaient pas, comme si c'était pas vrai, comme si elle avait du mal avec ça en fait. J'ai eu parfois des réflexions, par exemple, ses enfants, ils sont petits, hein, il y en a une qui a 4 ans et l'autre qui a 9 ans, ils étaient à moitié endormis. Il y a un moment donné, enfin, je sais pas, faut rentrer, faut les faire coucher, ou alors je vais proposer un lit. Et là, elle me dit, ah, en plus, tu proposes un lit aussi. L'air de dire, c'est bien si je fais gîte et couvert et gîte, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. À chaque fois, il y avait une petite tendance comme ça à
vous rabaisser, oui, c'est ce que vous nous avez dit. Toujours à critiquer, en tout cas.
Comme si, je sais pas, comme si ça n'existait pas, la gentillesse, il y a forcément quelque chose derrière.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est le problème des gens très gentils. Ouais. Vraiment, quand on est très gentil, eh bien, en fait, c'est la limite de la gentillesse des gens en face. Quand ils arrivent, ils finissent par vous dire, ça cache quelque chose.
Oui, c'est ça, ouais.
Ouais, bah, donc, quand ça cache quelque chose, c'est la limite des personnes en face dans leur gentillesse, en fait. D'accord, je comprends. Bon, Sophia, bah, écoutez, en tout cas, j'espère que vous allez trouver une solution par rapport à cette situation. J'espère qu'elle ne va pas s'envenimer, hein, clairement.
Ben, moi, en tout cas, si je leur donnerai pas, je leur donnerai rien, en tout cas. Ils n'auront rien de ma part.
Oui.
Donc, c'est juste que moi, j'ai complètement perdu confiance en moi par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et du coup, ce qui me fait peur, c'est de ne pas savoir comment réagir, vous voyez, d'avoir une réflexion ou des choses comme ça. Je serais tellement sidérée, comme d'habitude, que je ne saurais pas quoi faire.
Alors, il y a une phrase qui passe très très bien quand on se fait humilier ou agresser. Un moyen vraiment de mettre cette espèce de carapace, c'est de dire à quelqu'un, ça c'est ce que tu dis ou ça c'est ce que tu penses. C'est une façon vraiment de rejeter et de mettre à distance la personne. Vous pouvez répéter cette phrase en imaginant, hein, quand vous soliloquez, c'est-à-dire quand vous parlez toute seule et que vous imaginez en projection une situation, de répondre à une personne qui nous humilie ou vraiment qui vous rabaisse, de dire ça, c'est toi qui le dis ou ça, c'est toi qui le pense. Vous verrez, ça marche très très bien. Comment ?
On lui redonne.
C'est exactement ça. C'est un peu les enfants qui disaient c'est celui qui dit qui est. Ben, c'est bah, presque c'est ça. Oui, oui, ouais. Absolument. Sophia, merci infiniment. J'espère que déjà ça vous aura fait du bien d'en parler. Et puis surtout, que cet échange vous aura permis de reprendre également. Réécoutez-vous, ce sera très intéressant également. Mm-hmm. Réécoutez-vous.
Oui, c'est ce que je vais faire.
Oui, absolument. Et puis en tout cas, tenez-nous au courant si les choses avancent dans le bon sens du terme.
Ok.
D'accord,
très bien. Merci beaucoup, Sana, de m'avoir reçu dans votre émission.
Je vous en prie.
Bonne soirée.
Bon courage. Au revoir.
Merci. Merci, au revoir.
La libre antenne d'Europe 1. Sana Blanger accompagne vos nuits.
Accueillons tout de suite Anne. Bonsoir, Anne.
Bonsoir, Sana, et bonsoir à tous les auditeurs.
Bienvenue à la libre antenne.
Ben, je vous remercie de m'accueillir sur Europe 1, que j'écoute depuis 2005.
Très merci de votre fidélité. Qu'est-ce qui vous arrive ?
Alors, bon, je suis un petit peu nerveuse. Je vous prie de m'excuser.
Non, mais je vous en prie.
Voilà, bon, je voulais surtout rebondir sur le témoignage de Georges, que je n'ai pas pu entendre en entier parce que je suis arrivée trop tard. Et donc, Georges évoquait la transition.
Absolument. Donc, alors, vous pourrez réécouter en podcast son passage. C'était jeudi dernier et ensuite il est repassé lundi pour nous donner.
Voilà, je l'ai entendu lundi en fait. Je ne l'ai pas entendu jeudi. J'ai dû, à un moment donné, je n'étais pas sur l'entièreté de l'émission. Donc voilà, je n'ai pas.
Par son contre, petit-fils, je termine, et son petit-fils nous a appelé hier.
Oui, c'était j'ai écouté Gabriel.
Gabriel, absolument.
Justement, voilà, puisque je vous écoute tous les soirs. Et bon, là, c'est vrai que je suis arrivée un petit peu tard ce soir-là et j'étais très contente de voir que l'on pouvait aborder le sujet de la transition.
Ah ben oui.
Et j'aurais bien voulu répondre à Georges, mais c'était trop tard, je suis arrivée en fin de témoignage.
D'accord.
Et voilà, parce que je suis moi-même, pour poser le contexte, donc j'ai 54 ans, je suis maman de 3 enfants. Et donc, la dernière, qui est une fille et qui est devenue un jeune homme.
D'accord.
Donc, c'est un sujet qui m'a touchée directement au travers du témoignage de Georges et de celui de Gabriel, qui a 16 ans. Pour poser un petit peu le contexte...
Votre fils a 16 ans également ?
Non, non, ça a commencé à 15 ans.
Ah, ça a commencé à 15 ans, d'accord.
Voilà, maintenant, il a 25 ans, bientôt 25 ans.
D'accord.
Mais ça m'a rappelé beaucoup de choses,
oui.
Et ça remue encore beaucoup de choses, puisque c'est un sujet sur lequel il y a très peu de discussions et les gens ne comprennent pas. Donc je n'en parle pas en fait en ce qui me concerne. Donc pour situer le contexte, je suis divorcée depuis 15 ans.
Oui.
Et au moment de mon divorce, mes trois enfants avaient, dont la dernière, 10, 14 et 20 ans. C'est un divorce qui a été très conflictuel, qui a duré plus de 3 ans et dont les enfants, les deux derniers, ont souffert énormément en raison du chantage affectif. Ah. Donc ça, c'est pour vous situer, si vous voulez, le mal-être qui s'en est suivi.
D'accord.
J'ai obtenu la garde des enfants. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, bon, tout allait bien. Donc, ma dernière, qui est devenue un jeune homme, était une élève extrêmement brillante, qui avait 18 de moyenne. Le divorce ayant fait beaucoup de dégâts, la séparation, sur le moment, j'ai pas tout de suite vu son mal-être, parce que les études suivaient, les notes étaient là. Et puis, c'est à partir de la troisième, où là, les notes ont commencé à dégringoler. De 18 de moyenne, elle est passée à 11. Alors que c'était voilà, une élève
brillante.
Tout à fait... Oui, puis alors, bon, beaucoup d'humour, la personnalité. Je précise que c'était une petite jeune fille d'1m55, une petite miniature très féminine, des cheveux très longs, voilà, très jolie, qui avait beaucoup de succès auprès des garçons, et elle le rendait bien d'ailleurs. Donc, si vous voulez, pour moi, il y avait un cheminement tout à fait normal. On était à la période, une préadolescence qui a duré assez longtemps.
Oui.
Et donc, tout ce mal-être qui a commencé à s'accumuler, je l'ai mis aussi sur le compte au début de la séparation, plus de la préadolescence prolongée qui était là. Donc, très bonne complicité avec son frère. Et puis, ça a commencé par les notes. Donc, j'ai commencé à rencontrer les professeurs pour savoir le pourquoi du comment. S'en sont suivis beaucoup d'échanges. Donc, j'ai même changé d'établissement.
Ah oui.
Les notes ont un petit peu remonté, mais il y avait un désintérêt de tout, en fait. Donc, je me suis dit, elle commence une dépression. Donc, j'ai commencé à discuter avec elle parce que je suis très ouverte. À voir éventuellement le médecin traitant pour savoir si effectivement c'était une dépression, qu'est-ce que ça masquait, ce mal-être qui commençait, je le sentais, mais j'arrivais pas à mettre un mot dessus. Donc son frère regardait aussi sa sœur pour savoir si, parce qu'il venait me rapporter un petit peu, parce qu'ils étaient très complices, s'il y avait des choses, j'ai pensé qu'il y avait peut-être des choses en cours. Mais en fait, elle sortait énormément, c'est ça qui était paradoxal, c'est qu'elle était, elle faisait des cours de guitare, elle était chanteuse dans un groupe de guitare. Les copains et les copines venaient régulièrement à la maison. Donc, j'ai rejeté un peu le côté, j'ai mis de côté le problème relationnel. Donc, après, ça a continué. Ça s'est manifesté en plus. Elle a toujours un don pour le dessin.
Oui.
Donc, elle faisait beaucoup de croquis. À l'époque, elle était énormément dans les mangas.
D'accord.
Donc, au niveau tenue vestimentaire, collant, jupe, enfin, voilà, tout à fait, j'allais dire...
rien d'apparent, en fait.
Voilà. Ouais. Et puis, avec les mangas, comme elle était énormément, parce que c'est une, un jeune homme qui lit beaucoup, qui s'intéresse à tout, donc elle était dans la culture manga, elle a commencé à mettre des petites robes, vous savez, plissées avec les collants opaques, les Doc Martens, et puis... Je me suis dit, c'est un passage, je me suis dit, on va être souple, je vais l'accompagner dans... Voilà, dans ce changement vestimentaire, tout en ayant un œil où ça dérivait pas non plus dans quelque chose. Voilà. Donc après, elle a commencé à mettre un peu des colliers avec des pics. Ça, j'ai moins aimé. Mais je me suis dit, bon, étant donné qu'on était dans le côté un
peu
du divorce, voilà. Bon. Et puis là où j'ai commencé vraiment à m'inquiéter, c'est quand elle a commencé à se scarifier.
Aïe.
Donc sur les poignets, elle cachait ça avec des gros bracelets en cuir. Et là, donc, j'ai commencé à discuter avec elle. Enfin, c'était déjà le cas. Mais là, je lui ai dit, écoute, je pense qu'on a peut-être besoin de voir un psychologue. Je vois que tu n'arrives pas à m'en parler. Est-ce que tu veux en parler à une tierce personne avec qui tu pourras exposer ce qui se passe peut-être est-ce que c'est par rapport à ton père, par rapport à moi, et tu n'as peut-être pas forcément envie de me l'exprimer. Donc, nous avons cherché des psychologues. Aucun ne lui a convenu.
Il a accepté. En fait, est-ce qu'on dit elle sur cette période?
J'ai du mal à dire il.
Oui.
Parce que j'arrive pas à faire mon deuil, mais je vous expliquerai un peu après.
D'accord.
Pourquoi. Donc, c'est vrai que je dis mon enfant, en fait.
Quel est son prénom? Ou alors on lui trouve un prénom?
Mathieu,
voilà. Je vais dire Mathieu.
Mais j'ai beaucoup de mal à faire le deuil de son prénom.
Mais je comprends.
Féminin.
Ouais.
Parce parce que ça a été assez violent dans la manière dont les choses se sont présentées. Non pas que je ne l'ai pas accepté, mais voilà, elle a déjà accepté à cette époque-là de voir des psychologues. Bon, et puis un beau jour, j'ai un psychologue qui m'a convoqué, qui m'a dit « Écoutez, de toute façon, votre fille, quand elle vient en consultation, elle me regarde, elle regarde le plafond, elle regarde les murs, et elle me dit froidement « Je n'ai rien à vous dire ». Donc, il m'a dit « On ne va pas continuer la consultation, ça ne sert à rien ». Donc, on a continué jusqu'au jour où on a trouvé un psychologue, enfin une psychologue, avec qui ça a matché, où elle s'entendait bien. Et à partir de ce moment-là, les scarifications, parce qu'elle avait commencé les scarifications, mais elle s'arrachait aussi les cils. Donc, je ne sais plus, ça a un nom.
Absolument. J'ai eu une patiente
Je ne me rappelle plus, mais bon... comme elle était châtain clair sur le moment, alors il faut savoir qu'elle se maquillait, hein, qu'elle mettait des bijoux et autres. Et puis c'est comme ça petit à petit. Il y a eu d'abord cette époque manga, donc où elle était dans le côté japonais, chinois, dans la manière vestimentaire. Et je n'ai pas fait attention au dessin, parce qu'elle avait des croquis qu'elle faisait et qui retraçaient tous les mangas. Et par la suite, en fait, dans les mangas, elle se représentait, elle, en personnage androgyne. Mais ça, à l'époque, je l'ai pas, j'ai pas tilté là-dessus parce que j'étais sur autre chose. J'étais sur ses résultats scolaires qui baissaient, sur son mal-être. Je voyais bien qu'elle souffrait, qu'elle voulait pas m'en parler, qu'elle jouait un personnage même avec ses amis, qu'elle faisait semblant d'être joyeuse. Mais en fait, bon, avec son frère, on arrivait en discutant, son frère et moi, donc on voyait bien qu'il y avait des petites choses qui n'allait pas, qui petit à petit...
Anna, est-ce que vous sondiez ses amis? Non?
C'était un peu compliqué parce que j'avais pas envie de les mêler à notre vie intime. On était tous les trois, puisque j'ai mes enfants toute seule. Donc c'était un peu compliqué. Et puis en fait, j'ai vraiment pensé au contexte du divorce qui était vraiment terrible, quoi. Donc j'ai essayé plutôt de discuter avec ma fille, d'être ouverte. Elle parlait assez bien, mais en fait, elle cachait pas mal les choses aussi. Donc la psychologue nous a énormément aidés, enfin l'a énormément aidée. Donc les scarifications se sont arrêtées. Le fait qu'elle s'arrache les cils également.
Ça y est, c'est la tricot.
C'est ça.
Tricotillomanie, quelque chose comme ça,
Voilà, c'est un terme compliqué. Je savais le mot tricoter dedans.
Voilà. Mais je crois que c'est la tricotillomanie.
Je ne connaissais pas du tout.
Ah oui, c'est le fait d'arracher, de s'arracher les cheveux.
Elle n'avait plus de cils. Du tout de cils. C'était assez impressionnant. Et jusqu'au jour où cette psychologue m'a convoquée, parce que je demandais à savoir qu'est-ce qu'elle en pensait. Et elle m'a dit très violemment, elle m'a dit « Écoutez, votre fille a un dédoublement de la personnalité. Au travers de ses mangas, elle s'habille comme ci, comme ça. Je pense qu'elle est schizophrène. Là, je l'ai pris vraiment en pleine figure. Je me suis dit « La schizophrénie, c'est pas ça. » Et en même temps, je me suis dit « C'est vrai qu'elle est intelligente. » Mais pour moi, voilà. Donc, la psychologue, ça s'est arrêté là. on a cherché d'autres moyens. Et puis, y a eu un moment où, effectivement, elle est donc retournée vivre chez son père. Là, ça a été assez violent. Au moment de ses 18 ans, elle m'a dit « je retourne vivre chez mon père ».
Pour quelle raison ? Qu'est-ce qu'elle vous a donné comme explication, comme argument ?
Elle a toujours été très proche de son père.
Ah, d'accord.
Sur les trois, c'était vraiment la fille à papa. Mais je ne dis pas ça péjorativement.
Non, bien sûr.
Et leur père, avant le divorce, a été tout à fait un bon père. Il a élevé ses enfants. Enfin, de ce côté-là, avant le divorce, il n'y avait aucun souci.
Oui.
Mais c'était plutôt dirigé contre moi, puisque c'était moi qui suis partie.
D'accord.
Donc elle m'a dit « J'ai 18 ans, je m'en vais ». Et en l'espace d'un mois, elle a plié bagages et elle est partie rejoindre son père. Donc, ça a été un petit peu violent. Et puis, on s'est retrouvés au moment des vacances. Et là, un beau jour, au moment des vacances, elle m'a dit « voilà, maman ». Alors, il faut savoir, entre-temps, j'ai sauté des étapes. Donc, après l'arrêt du psychologue, elle allait un peu mieux. Et puis là, par contre, la transformation physique s'est faite. C'est-à-dire que là, elle a carrément arrêté les jupes, la jupe plissée, tout ce qui était un peu dans la provoque. Parce que moi, au début, je me suis dit, elle est dans la provocation, c'est un petit peu pour me... Donc, j'allais dans son sens, voilà. Et puis, elle est passée au pantalon. Mais bon, au pantalon, j'allais dire tout à fait logique. Bon, elle était passée des New Rock, elle est restée avec ses Doc Martens. Mais les pantalons, et puis c'est surtout la coupe. Au début, elle avait les cheveux très longs jusqu'à la taille. Quand elle est passée dans son mode manga, elle est passée aux cheveux au carré.
Au carré,
et
ouais.
Après, elle est passée carrément à la coupe limite brosse.
D'accord.
Bon, les bijoux, c'était terminé. Le maquillage, terminé. Au début, elle faisait des piercings. Elle a commencé à se faire des tatouages, mais très discrets. Mm-hmm. Les piercings, elle les a arrêtés parce qu'après, j'ai compris que c'était trop féminin. Et puis, elle a commencé aussi à mettre des bandages au niveau des seins.
Ah. Alors ça, c'est vraiment ce qui regroupe. Hein. Le signe, c'est vraiment la poitrine, hein, cette féminité.
Ah oui. Là, elle a eu un rejet, mais alors de sa féminité. Ouais. Et donc, avec son frère, on a pensé en fait qu'elle était homosexuelle. On s'est dit, c'est pas grave. Moi, mes enfants, je les aime comme ils sont, peu importe. Donc, on était resté un peu sur cette impression-là. Et puis, un été, quand on s'est tous retrouvés, enfin, avec son frère, on m'a dit, maman, j'ai quelque chose à te dire. Bon, je pensais qu'elle allait m'avouer son homosexualité. Pour moi, elle avait déjà eu des petits copains. Je ne l'ai jamais vu avoir des relations homosexuelles. Je me suis dit, bon, peut-être que dans son orientation sexuelle, elle est bisexuelle. Bon, après, ça la regarde, c'est son choix. Et moi, je n'ai pas à critiquer son choix. Elle avait 18 ans, 19 ans, là. Et puis, elle m'a dit, non, elle m'a dit, je ne suis pas homosexuelle. Et là, je n'ai pas compris. Et elle m'a dit, en fait, voilà, je me sens mal dans mon corps de femme. Elle me dit, je le hais. Et elle m'a dit, voilà, je veux devenir un homme. Alors, sur le moment, j'ai eu un temps, je crois que mon esprit de maman s'est bloqué.
Oui.
J'ai pas compris, parce que je ne connaissais pas du tout ce que c'était transgenre. Pour moi, transgenre, comme disait votre collaborateur, j'étais restée sur les documentaires de Coccinelle.
Oui, d'accord.
Du premier transsexuel, Coccinelle, voilà. Et pour moi, l'homosexualité, bon, ça avait été, ça y est, c'était quelque chose maintenant, des monsieur et monsieur et des madame et madame, voilà, ça ne dérange plus personne, c'est vraiment, il n'y a plus de racisme ou d'homophobie, oui. Entre guillemets. Donc ma première réaction,
moins.
C'est vrai
que... En tout cas, moins.
Oui. Mais on parle du mariage homosexuel,
oui, bien
on
sûr.
Parle des alors que dans les années 80,
l'évolution des mœurs,
dans les années 80, quand on était au moment du sida, on n'aurait jamais pensé. Puis bon, moi, je suis issue d'une famille traditionnaliste, surcroît.
Oui.
Mais bon, voilà. Donc, on a commencé. Donc, à partir de ce moment-là, on discutait. Je vous avouerai que ma première réaction a été une réaction de rejet, pas par rapport à mon enfant, hein, mais par rapport, comment vous dire ça, au système, en fait. Le système de transition, transgenre, plutôt ce milieu, enfin, j'aime pas le terme milieu parce que c'est. Je ne sais pas si où est-ce que je veux dire. Quand elle m'a dit transition, transgenre,
ouais.
C'est quelque chose que j'ai rejeté en disant ça ne peut pas m'arriver à moi en tant que maman. Et après, j'ai culpabilisé en me disant qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle arrive, qu'elle veuille devenir un homme en fait et qu'elle rejette sa naissance de fille en fait.
Alors, c'est probablement une question tout à fait normale et légitime, puisque si on regroupe en tout cas le témoignage de Georges et de Luna hier également, qui nous a appelés pour parler de ses enfants, eh bien, tous les trois, vous avez ce point commun de vous dire, mais qu'est-ce qu'on a raté ? Et
c'est
presque dommage de se dire, mais en quoi est-ce que c'est raté si l'enfant devient adulte en étant totalement épanoui, en quoi c'est raté ?
C'est ce que je me suis dit après.
Et bien,
mais dans un premier temps, j'ai eu cette phase-là qui est passée assez vite parce qu'elle ne m'a pas laissé le choix. Mais j'ai culpabilisé et puis quand j'ai vu qu'elle était soulagée de me dire que voilà, et elle avait déjà mes pensées, tout son projet déjà, elle avait déjà fait des recherches, elle s'était renseignée, par contre ce qu'elle m'a fait faire c'est qu'elle ne voulait pas que j'en parle, pendant 2 ans j'ai dû garder le secret.
Anne, est-ce que pendant cette période-là où vous avez observé votre Mathieu dans son évolution, en tout cas physique, avant son opération, hein, avant la prise de testostérone qui marque quand même. Est-ce que vous en avez parlé avec son père ? Est-ce que vous avez réussi à...
Non, elle m'a interdit.
Ah,
non, non, elle m'a interdit. En fait, j'étais la première à qui elle a avoué sa transition.
D'accord.
Et son frère. Mais par contre, elle m'a dit, tant que je n'ai pas fait mon cheminement physique... le début de son parcours, elle m'a dit « Je ne veux pas que tu en parles. » Donc, en fait, je me suis retrouvée à garder ça pour moi. Mmh. Par contre, ensemble, on a fait le chemin. Donc, comme je vous disais, passer ses premières émotions, oui. Je me suis dit, bon, c'est comme ça.
Je vais l'accompagner.
Je vais l'accompagner. Oui. Et je la voyais vraiment, c'était pas quelque chose de fantaisie. Elle avait déjà préparé tous ses...
C'était mûrement, c'était pas embryonnaire, c'était vraiment mûrement réfléchi dans son esprit.
Mais enfin, il faut savoir quand même que sur le moment, la troisième pensée qui m'est venue, c'est, je me suis dit, oh là 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 là, elle va se faire agresser, elle est à l'université. Et j'avais très peur qu'elle se fasse agresser dans le bus. Parce que elle, par contre, elle n'avait aucunement... par contre, vis-à-vis de ses amis, tout ça, elle l'avouait, elle le disait. Oui. Elle était transformée. Mmh. Elle était heureuse.
Oui.
Enfin, il était heureux. Par contre, moi, du côté familial, je...
Le fameux terme.
Rien à voir.
Libéré, quoi.
Tout à fait.
Ouais.
Et donc, du coup, on a commencé à faire les recherches ensemble. Donc, ça a commencé par les sites Internet. Enfin, moi, déjà, quand elle me l'a avoué, j'ai recherché tous les sites Internet sur tout ce qui était transgenre. Mmh. J'ai regardé X documentaires, émissions, reportages sur la transition.
Ouais.
Alors là aussi, il y a du bon et du mauvais. Il faut être honnête.
Mais c'est... Alors, j'ai regardé hier, parce que je savais que j'allais avoir Gabriel en ligne le soir. J'ai regardé sur Netflix un très, très bon documentaire qui s'appelle Discloser, que je vous invite à regarder.
D'accord.
Qui donne des informations extrêmement intéressantes sur, justement, pas l'univers transgenre, mais en tout cas le fait qu'il n'y a que les médias qui en parlent. Et finalement, nous n'avons qu'une connaissance à travers des films, des séries, mais certainement pas, comme vous le dites, là, ce que vous êtes, vous, en train de nous dire, ce témoignage fort comme celui de Gabriel hier ou celui de Georges, qui peut déranger, mais...
Ah, mais ça dérange totalement. Hein.
Voilà, mais ça fait partie de notre société aujourd'hui.
Alors après...
Et il faut en parler.
Il y a eu des reportages où... Bon, après, ça, c'est mon point de vue personnel pour... Parce que c'est quelque chose... Enfin, je veux dire, jusqu'à 14 ans, ma fille n'a montré aucun mal-être. C'était une fille, une vraie fille. Hein. On faisait du shopping entre mère et fille. Donc, il a fallu que je fasse ce deuil-là aussi. Mais voilà, il n'y avait pas, si vous voulez, de tendance ni homosexuelle, ni autre.
Oui.
Elle jouait à la poupée. Enfin, c'est un peu cliché ce que je vous dis là, hein, parce qu'elle a fait tous les sports de combat, par contre. Bon. Elle n'a pas fait de danse classique. Hein.
Mais ça, c'est aussi la société qui veut ça. Hein. On nous a imposé, entre guillemets, un langage, ce langage qui cloisonne finalement. Après, il y a tous les comportements sociaux où le rose est attribué aux filles, le bleu est attribué aux garçons. Et c'est un peu la génération woke aujourd'hui qui est en train de tout faire exploser. Alors ça nous dérange, hein, parce que ce sont également des repères. Mais
on est un petit peu resté dans l'androgynité, comme avec Kristen the Queen.
Bien sûr.
Et donc voilà, ma question était un petit peu... Donc ce soir, c'est vrai que ça me fait du bien de vous parler, parce que... Je n'en parle jamais. Non pas parce que j'ai honte, attention. Hein. Moi, j'aime mon enfant comme il est. Je n'ai aucune honte de ce qu'il est, mais simplement parce qu'on n'est pas compris en tant que parent. Et que moi, j'ai entendu des réflexions autour de moi, et la grand-mère en premier. Alors, c'est pour ça que je trouve que Georges est un grand-père super.
Ah ouais.
Parce que ma mère, donc du côté, est quelqu'un de très traditionnaliste. Et pour vous dire, quand j'ai divorcé, la réflexion a été on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Et elle ne m'a plus parlé pendant 8 ans.
Ah, voilà. D'accord. Suite à Mathieu.
Non, suite à mon divorce.
À votre
divorce. C'est pour vous situer le côté traditionnaliste.
Oui, d'accord, je comprends.
Voilà, donc vous imaginez bien que quand ma fille est arrivée, c'est pour ça qu'elle m'a dit je ne veux pas que tu en parles à ma grand-mère parce qu'elle va être cassante sur toutes mes démarches, elle va me critiquer. Donc voilà, et son père, en fait, elle avait une peur bleue que son père la mette à la porte puisqu'elle faisait ses études et c'est son père qui l'a logée, voilà. Donc,
c'était la question que j'allais vous poser, entre guillemets, comment a-t-elle fait pour berner, entre guillemets, son père, puisque vous avez...
Non, mais on pensait tous, en fait, qu'elle était lesbienne.
Ah oui, tout simplement, d'accord.
Et donc son père, de ce côté-là,
il ne se posait pas plus de questions en se disant,
Non, il attendait, en fait, qu'elle lui en parle.
Je comprends.
Et comme elle s'était coupée les cheveux très courts, elle s'habillait d'une manière masculine, elle n'avait pas de relation amoureuse lesbienne. D'ailleurs, c'est ce qui est assez étrange dans son orientation sexuelle, et c'est ce qui m'a perturbée aussi. c'est qu'elle m'a dit non, moi j'aime les hommes.
D'accord.
Donc je me suis dit, en étant transgenre, je me suis dit si elle devient un homme, je m'étais dit bon après tout si elle est lesbienne, elle sera un couple avec une femme.
Bien sûr.
Donc de mon point de vue de mère, honnêtement sur le moment, ça me dérangeait de me dire bon, je me suis dit bah là elle aura l'aspect de d'un couple hétérosexuel. Et en fait non, elle m'a dit non non, moi, j'aime
Mathieu
les hommes.
Est homosexuel.
Non, elle est hétérosexuelle.
Alors Mathieu, il est
parce qu'avant c'était une jeune femme.
Mais aujourd'hui, il est en couple avec un homme ou une femme ?
Ah non, pas du tout. Elle n'est pas du tout en couple. Non, la sexualité,
ah,
je pense que. Mais non, non.
Je pensais qu'il était.
Son orientation sexuelle, ce serait vers des garçons.
D'accord.
Elle ne change pas d'orientation sexuelle, en fait.
Donc, Mathieu est homosexuel.
Ah oui, si vous. Oui.
Oui.
Si vous... Oui, moi je restais sur le, j'allais dire la naissance même, en me disant j'ai mis au monde une fille.
Ah oui, je comprends.
Donc,
mais bon, mais peu importe.
Voilà.
C'est pas le sujet.
Donc voilà, non, mais c'est vrai que ça m'a quand même tourmenté son orientation sexuelle en me disant ben je ne serai pas grand-mère.
Ah oui, ça aussi.
Et ça aussi, je peux vous dire qu'en tant que maman, la fille étant très attachée à la maman, un garçon c'est pas pareil. Un garçon c'est la belle-fille qui accouche. Donc la belle-fille, elle va se tourner vers la belle-famille. Tandis que quand ce sont vos filles, ben voilà. Donc je me suis dit, bon, ben voilà. Donc j'ai fait ce deuil-là,
adopter.
J'ai dû faire ce deuil-là.
Il n'a que 24 ans, il peut adopter sans souci.
Oui, alors pour l'instant, je ne sais pas.
Oui.
Donc du coup, on a fait ce cheminement-là. On a, alors, étant à l'université, elle a la chance d'avoir été très bien accompagnée parce qu'il y avait une association transgenre au sein de l'université, dont son meilleur ami était le président.
D'accord.
Et donc, en fait, il lui a donné de très bonnes adresses. Alors, ça a duré pratiquement 2 ans où elle a rencontré un psychiatre. Alors, c'est pas n'importe quel psychiatre, hein, ce sont des psychiatres qui sont vraiment qui sont dans la transition.
Ah oui.
Ils sont spécialisés dans la transition.
Oui. Alors,
donc, elle
justement,
est allée sur
Anne,
Paris.
C'est vrai que vous avez raison. Ce sont des spécialistes, hein, parce que tout le monde n'est
je
pas.
Je précise pour les auditeurs.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste après une petite pause. Vous êtes d'accord ?
Bien sûr.
Bon,
bien
à
sûr.
Tout de suite sur Europe 1.
La libre antenne d'Europe 1. Sana Blanger accompagne vos nuits.
Nous retrouvons Anne. Anne, oui. Vous êtes toujours là. Vraiment, Anne, je vous dis un grand merci. Merci infiniment d'aborder ce sujet qui, effectivement...
C'est compliqué pour moi, même si j'ai la parole un peu fluide,
oui.
Bon, je suis un petit peu brouillon, ça part un peu dans tous les sens, et je vous
non,
prie
pas
de
du tout. Non, non, pas du tout.
Mais
vraiment.
En fait, je n'en parle jamais, comme je vous dis, c'est pas que j'ai honte, c'est que... Il n'y a pas de personne dans l'écoute. Alors, j'ai parlé avec les associations, bien sûr. Hein. J'ai parlé avec tout ce qui était le corps médical.
Ouais.
Donc, le psychiatre qui a suivi donc mon enfant pendant 1 an et demi. Donc, et qui lui a très bien expliqué quels allaient être les changements physiques
ouais.
de son corps. Donc, dans un premier temps, ça a été la partie psychologique pour s'assurer, comme disait Georges, parce que moi, ce qui m'a fait très peur aussi, c'est qu'il n'y avait pas de retour en arrière.
Mmh.
Parce que très vite, elle m'a parlé tout de suite de l'ablation des seins.
Oui.
Alors que c'était une belle petite jeune fille avec, voilà, très bien proportionnée. Bon, le problème, c'est qu'elle complexait parce qu'1m55, 43 kilos, bon, c'est sûr que c'est pas du 45 en pointure, et que pour devenir un jeune homme, bon, malgré tout, ça faisait, voilà, dans la norme, on va dire, masculine au niveau taille, c'est 1m70, donc ça l'a complexé.
Ouais.
Mais, donc après ce parcours au niveau de psychiatrie, donc, ça a été donc savoir étudier vraiment ses motivations.
Oui.
Ça, le psychiatre s'est vraiment assuré de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle entendait. Donc, il y a eu des échanges avec le psychiatre. Et ensuite, dans un deuxième temps, est venu donc, l'aspect du changement physique.
Oui.
Donc là, elle lui a expliqué en quoi ça consistait, l'ablation, parce que là, maintenant, elle en était aussi au changement de sexe. Donc là, c'est encore un autre... Mais ça s'est fait très rapidement, hein, parce que là, je vous dis ça, de 18 à 20 ans, en 2 ans.
En 2 ans.
Et en 2 ans, ce que j'explique aussi à un collaborateur, ce qui m'a un petit peu gênée, moi, en tant que mère et autrement, c'est qu'au niveau de la carte d'identité, en 6 mois de temps, elle a pu changer d'identité. C'est-à-dire qu'elle est devenue monsieur au lieu de mademoiselle.
Donc, au lieu du 2, elle est passée
non,
à 1.
Non, alors justement, le problème qui est en France carte, actuellement, ouais. c'est que sur la carte vitale, elle conserve son 2.
D'accord.
Mais sur la carte d'identité, elle est devenue monsieur.
D'accord.
Okay. Et le changement de prénom a été accepté.
D'accord.
Et pour la carte vitale, c'est un petit peu plus long. Mmh. Et donc là, c'est vrai que bah, comme elle cherchait des emplois et autres, moi, j'avais peur pour elle parce que quand vous présentez la carte vitale à un employeur pour tout ce qui est formalité administrative, vous avez le 2 qui apparaît.
Oui.
Mais elle, par contre, elle n'avait absolument pas peur du regard de l'autre.
Alors,
des autres.
Forcément, vous, comment est-ce que vous avez vécu cet accompagnement psychologiquement, parce que vous nous dites hein, clairement, vous l'avez verbalisé, j'ai encore du mal. Moi, l'esprit de maman, je l'ai noté. Je connaissais l'esprit de Noël et puis là, grâce à vous, je découvre l'esprit de maman. J'aime beaucoup la formulation. Comment avez-vous vécu, vous, avec votre esprit de maman, ces 2 ans où là, on est vraiment dans le cœur du réacteur?
Je dirais le parcours du combattant. En ce qui me concerne.
Ouais.
Parce que j'ai dû me faire violence pour beaucoup de choses et ce qui m'a porté, c'est qu'elle soit heureuse.
Oui, ça c'est ce qui
donc
vous a
après,
porté chaque fois.
Je lui cachais en fait. Il y a des choses que je pouvais dire, mais elle était tellement dans ce parcours de cheminement, de bien-être, d'arriver voilà, à la finalité d'être un garçon, qu'en fait, je pouvais pas lui dire. Bien sûr qu'à un moment donné, je lui ai dit, ben voilà, mais je crois qu'elle aurait même pas compris qu'il fallait que je fasse le deuil. Elle m'a dit un jour, elle m'a dit, mais maman, tu sais, je reste la même dans mon esprit. Elle dit, c'est pas parce que physiquement que je change que je vais changer intellectuellement, ce qui était vrai d'ailleurs.
Ouais.
Elle avait
ou
parfaitement
l'amour,
raison.
Ou l'amour qu'elle
et voilà,
peut
porter. Et moi, mon amour, il reste intact.
Ouais.
Mais c'était physiquement, ça a été, si vous voulez, en l'espace de 2 ans, j'ai fait cet accompagnement-là, j'ai rencontré et j'ai beaucoup discuté par mail avec des associations transgenres,
ouais.
mais je n'ai pas rencontré les gens physiquement. Si vous voulez, dans les associations, ça a été des appels téléphoniques, ça a été des échanges de mails. Ensuite, on est passé à l'endocrinologue. Et là, c'est là où ça a été très, très violent pour moi, parce qu'en fait, jusqu'à présent, j'avais ce repère rassurant de maman de voir la petite fille, bon, qui était une jeune femme, hein, mais voilà, j'avais encore l'image féminine devant moi. Et quand elle a commencé à prendre, d'abord j'avais peur parce que les hormones, c'est pas anodin.
C'est vrai.
Donc elle a commencé à avoir des piqûres dans le ventre. Ça a été quelque chose de très rapide. Elle avait quand même des doses d'hormones de testostérone assez importantes.
Mmh.
Donc elle a commencé à avoir de la pilosité. Et puis ce qui a été le plus choquant pour moi, c'est quand elle a commencé à avoir sa pomme d'Adam. Et puis la voix.
Ah oui.
Et la voix. Ouais, alors là, ouais. là quand je l'avais au téléphone, c'était plus la petite voix féminine, c'était la grosse voix grave.
Oui.
Et puis bah, tout l'acné qui va avec, parce qu'il faut savoir que c'est pas rien, c'est comme une bonne crise d'adolescence et avec voilà avec des boutons, donc il y a un moment un peu ingrat dans le côté physique de la transition,
ouais.
et donc ce côté-là je l'ai vécu et ça a été compliqué pour moi parce que je reconnaissais plus la voix de ma fille, il y avait plus le prénom de ma fille et physiquement je la voyais changer, donc bon. Et après, si vous voulez, en plus, elle ne vivait pas avec moi, elle vivait avec son père.
Est-ce que Mathieu a souffert physiquement de tout ce protocole
Je ne pense pas, parce que quand j'en discutais avec lui, en fait, il me disait, je crois qu'il était tellement heureux que tout ça se fasse, qu'il aurait accepté mais n'importe quoi, enfin, je dis n'importe quoi, hein, sous-entendu, entre guillemets, mais dans le sens où, bon, il se savait bien accompagné déjà sur le plan médical,
ça
passait bien entre le médecin, le psychiatre et l'endocrinologue, parce que là aussi, elle avait été très bien conseillée sur un endocrinologue. Et par contre, après le chirurgien, c'était pareil, c'était un chirurgien spécialisé. Et là, c'est vrai que du jour au lendemain, elle m'a dit, ben voilà, j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien, ça me ferait plaisir que tu sois présente. Et puis, voilà, qu'on procède à l'ablation des seins.
Anne, sans nous dire, c'est comme vous voulez, hein, moi je vous pose des questions. Vous habitez dans quelle région de France?
Alors moi, je suis, ma fille est en Bretagne, et moi je suis sur Le Havre.
Et tout cela s'est fait...
En Seine-Maritime.
Tout cela s'est fait en Seine-Maritime, plutôt en région
parisienne?
Non,
tout en Bretagne et une partie. Autrement, le psychiatre, elle l'a vu à Paris.
D'accord.
Le psychiatre, elle allait sur Paris lors de ses rendez-vous et l'endocrinologue, c'était en Bretagne. Et l'opération, elle l'a fait en Bretagne aussi, elle l'a fait.
D'accord. Et quelle est l'association, ou en tout cas, ce qui vous a le plus aidé dans ce parcours, vous, en tant que mère?
J'étais tombée sur l'association de Caen, l'association Transgenre à Caen, qui est très bien, et qui m'ont dit... Mais alors, le problème que j'avais, pour être honnête, c'est que je suis souvent tombée sur des personnes qui sont passées d'homme à femme. J'avais très peu
c'est
de cas
c'est plus courant.
Où la transition était de femme à homme.
Oui, c'est vrai que c'est plus courant dans ce... Oui, c'est vrai.
Et voilà, donc j'ai souvent eu des témoignages d'hommes qui devenaient des femmes et où en termes de transition physique, c'est un peu plus, enfin, un peu plus facile, oui et non. Mais disons que là, en termes de tout ce qui était hormones et autres, pour moi, ça a été compliqué. Mmh. Et puis après, très très vite, elle a enchaîné sur l'ablation des seins.
Oui.
Donc là, par contre, elle a été dure, je trouve, elle a été assez violente. Elle ne s'est pas rendue compte que pour moi, c'était... elle m'a dit, écoute, maman, tu viens, parce que son père n'était toujours pas au courant. C'est au moment où elle a commencé à faire l'ablation des seins, qu'elle, vraiment, l'opération était programmée, qu'elle l'a avouée à son père.
Et donc, il ne s'était pas rendu compte de la pilosité, de la pomme d'Adam, de la voix.
Non, parce qu'elle avait
voix.
Une pilosité... Très, après, elle avait un logement étudiant.
Ah, voilà.
Ou alors, d'accord. Il n'a pas voulu. Je ne saurais vous dire.
Le fameux déni.
Je ne saurais vous dire, mais après, bon, quand elle est arrivée à l'opération, au stade de l'opération, elle lui a dit, bon, il n'a pas rejeté, il pensait qu'elle était bien, ça s'est bien passé. Par contre, l'opération, c'est à moi qu'elle a demandé. Elle m'a dit, maman, je veux que tu sois présente à la clinique.
Ouais.
Et qu'après, quand elle est revenue à son appartement, comme elle était bandée, donc il fallait savoir qu'avant, elle achetait des bandages pour écraser la poitrine.
Mmh.
Donc ça, c'était un signe aussi. Ces bandes dessinées aussi, c'était un personnage androgyne. Donc il y a eu après plein de signes qui m'ont... J'ai compris après coup.
Mais oui.
Et là, après, où elle a été un peu dure, j'ai trouvé, c'est après son ablation, donc elle avait des soins. Donc il y avait une infirmière qui venait. Et quand elle est sortie de la chirurgie, elle m'a dit, ça y est, tu sais, maman, le chirurgien, il m'a dit que j'avais une très belle poitrine et que c'était dommage de les enlever. D'enlever mes seins.
Mmh.
Ouf, bon.
Ouais.
Et là, je me suis dit, bon, il n'y a plus de recul en arrière. C'était le dernier rempart de sa féminité. C'est ce qu'elle souhaitait. Et quand elle est arrivée...
le dernier rempart, peut-être pour vous?
Oui, ah bah lui, là, c'était... Mmh. Mais la manière dont elle a dit, je sentais qu'elle, elle était soulagée... Mais elle ne s'est pas rendue compte qu'en fait, pour moi, c'était... À l'intérieur, j'étais en lambeaux.
Qu'est-ce qui vous a empêché, Anne, d'aller voir vous-même un thérapeute, un psy, pour pouvoir vous accompagner à faire le deuil de votre fille?
Ben, je crois que je ne l'ai toujours pas fait pour l'instant.
Oui, c'est ce qui...
Parce que je suis toujours entre le « il » et le « elle », parce que je ne peux pas parler aux autres personnes. Et que quand on me demande actuellement, vous avez des enfants, je dis toujours deux filles, un garçon.
Mmh.
Et quand j'entends des personnes me dire, ah, tu as deux filles, tu n'es toujours pas grand-mère, ben non, ça risque pas.
Et vraiment, quand je parle de deuil, je parle de la symbolique. Parce que Mathieu est là, mais c'est par rapport à tout ce que vous nous décrivez, sur le parcours également, comme vous, du combattant, de l'esprit de maman, qui, pour sidération, voilà, je veux être un homme. Tous les rêves et tout ce que vous aviez projeté sur et pour votre fille,
ça encore, si vous voulez, elle aurait été homosexuelle, je veux dire, non, c'est plus ce qui m'a fait très peur, un peu je rejoins Georges, c'est par rapport à son avenir. Je me suis dit, il ne s'est pas facilité la vie parce que la carte vitale, elle est en deux. Pour la recherche d'emploi, voilà, c'est plus ça qui m'a tracassée. Et on me dit aussi la peur qu'elle se fasse agresser.
Alors Georges, c'était aussi, et si elle regrettait ma petite fille?
Ah non, oh non, moi, il n'y avait pas de
souci. Ça, c'était elle l'interrogation.
Était très, très sûre.
Voilà, ça, c'était l'interrogation qui... Et quand on entend Gabriel, on sent bien qu'il est vraiment, il est vraiment prêt.
Donc, ah oui, oui, ben, c'était pareil. Moi, j'ai eu ce discours-là, une voix très affirmée.
Ah oui,
et puis, elle avait déjà fait toutes ses recherches en amont. Hein.
Mm.
Elle savait exactement. Donc, j'ai bien vu que ce n'était pas un projet fantaisiste.
Oui.
J'ai bien vu que ce n'était pas un côté provocation androgyne, etc.
Bien sûr.
Il y avait vraiment un mal-être, une souffrance qui était là. Et quand elle m'a demandé au contraire de l'accompagner, j'ai foncé, je suis rentrée dans cette porte ouverte qu'elle m'ouvrait. Hein. Je suis rentrée littéralement et au contraire. Après, c'est à moi de travailler sur moi. Mais je trouve dommage actuellement que la société traite ce sujet un peu c'est d'une manière légère. Moi, j'ai vu des reportages où c'était une petite fille de 4 ans et la maman disait elle veut devenir un garçon. Et d'office, elle est allée voir un psychiatre et elle le disait que elle était transgenre. À 6 ans, 6-7 ans, quand la petite s'exprime, on ne peut pas dire qu'un enfant est transgenre, je ne pense pas.
Oui.
Il peut y avoir d'autres orientations, mais pas forcément celle-ci. Il y a peut-être une orientation d'homosexualité, enfin, je ne sais pas. Mais en ce qui me concerne, il n'y a jamais eu rien de tel. Le mal-être a commencé vraiment vers 13-14 ans.
Oui.
Et au moment de l'adolescence, plus le divorce. Donc c'est pour ça que j'ai situé le contexte en disant que sur le moment, je n'ai absolument pas, vraiment pas pensé à ça. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, donc c'était il y a 2 ans, donc l'ablation, elle l'a faite. Et après, elle m'a annoncé que. Alors là, j'étais moins. Elle voulait changer de sexe. Dieu merci, je dis ça parce que pour l'instant je trouvais qu'elle était jeune et que c'est une opération qui n'est pas anodine hein, parce qu'il faut voir aussi le côté chirurgie. Moi c'est aussi ça qui me fait peur quand je dis Dieu merci parce que c'est des opérations qui ne sont pas courantes, la reconstruction du sexe, notamment d'une femme vers un homme. C'est quand même très très complexe.
C'est plus complexe, je crois, que l'inverse.
Ah là là, oui.
Ouais, ouais.
Donc, on en était resté là et puis là, ça a un coût. Il faut savoir que c'est pas remboursé, tout n'est pas remboursé par la sécurité sociale.
Ouais.
Donc, entre guillemets, ça a été mis en attente parce qu'elle n'avait pas les moyens.
D'accord.
Et moi, je trouvais ça même plus sage parce que ça lui permettait le temps de la réflexion, même si je sais qu'elle est sûre d'elle. Hein.
Mmh.
Mais plutôt le temps d'attendre un petit peu, peut-être pour trouver un médecin, enfin, de se renseigner davantage sur une chirurgie, quelque chose... Sur des personnes fiables.
Donc le terme exact, Mathieu n'est pas entier encore.
Voilà.
C'est
et
le
ça,
terme.
Je sais qu'il n'aimait pas parce qu'il avait toujours ses règles. Et c'est quelque chose qu'il ne supportait plus.
Ouais. Il prend peut-être une pilule
Oui, mais bon.
Donc malgré la testostérone, il continuait quand même à avoir...
Non, mais au début c'était ça. Non, oui. Là il mettait des slips qui donnaient une forme proéminente,
Oui.
Mais je sais que ce qui le dérange le plus, c'est sa taille, parce qu'il fait 1m55 et que c'était une petite miniature, donc une petite poupée. Et je ne dis pas ça péjorativement. Dans sa transformation, ça l'a beaucoup gêné.
Ah oui, ça je peux comprendre.
Parce que sur la taille, on ne peut pas jouer.
Oui,
c'est vrai que quand on voit l'étroitesse de ses poignets, moi je le sais, mais c'est vrai que pour un garçon, ça fait des poignets très très fins.
Oui.
Elle a des petites mains très fines, voilà. Alors, je continue à dire il ou elle parce que donc Mathieu a arrêté de me parler il y a 2 ans, au moment de la Covid. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu faire mon deuil.
Mais qu'est-ce qui s'est passé que vous l'avez accompagné alors que...
Eh bien, ça a été
Je ne m'attendais pas du tout à ce que vous nous disiez cela, vraiment.
Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, mon deuil, je n'ai pas pu le faire. Alors, j'ai toujours son numéro de téléphone. Je lui envoie des textos. Je lui dis toujours que je l'aime. Je lui laisse des petits messages vocaux. Ma porte est toujours grande ouverte. Et il a également fermé la porte à son frère. Donc, il n'a rien compris du tout. Et elle s'est coupée, en fait, de tout le monde. Sauf de son père. Et voilà.
Ah, donc, en revanche, à avoir un contact avec son père, néanmoins.
Ah oui, tout à fait. Alors, oui, il est resté dans la ville où est son père.
Anna, on va faire juste une toute petite...
Oui, je suis désolée, je me
Non, non, mais je vous en prie. C'est extrêmement intéressant. On fait une petite pause et on se retrouve juste après.
Je vous remercie.
Merci.
La libre antenne d'Europe 1. Sana Blanger accompagne vos nuits.
Donc, Anne, depuis la Covid, votre fils, en tout cas Mathieu, a rompu le lien avec vous et avec son frère.
Voilà,
en revanche... Et il continue à échanger avec son père. Comment est-ce que vous l'avez su ?
Ah, mais parce qu'elle vit là-bas. En fait, Donc, parce que les derniers temps, quand, les dernières fois que je l'ai vu, on avait encore des échanges écrits. Donc, je savais qu'elle allait régulièrement chez son père et vivre dans la même ville.
D'accord.
Et puis après, les échanges se sont espacés. Donc, je me suis dit, je vais me déplacer. Mais en fait, après, elle est partie carrément de vivre chez son père, puisqu'elle recherchait un nouveau logement.
D'accord.
Et comme son père et moi, nous, on ne s'entend plus depuis des années,
ouais.
Et quand j'ai même envoyé un texto à son père pour lui demander comment ça allait, il ne m'a jamais répondu. Alors, moi, j'ai supposé aussi, quand je vous ai parlé de la grand-mère, parce que, bah, bien sûr, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit, bah, « Ok, moi, j'assume ma transition, mais par contre, maman, tu l'annonces au reste de la famille. » Bon. Donc, il a fallu que je le dise à la grand-mère.
Oui.
Voilà, qui, la réaction de la grand-mère, c'est pour ça que je vous dis que Georges a beau, enfin, Gabrielle a beaucoup de chance d'avoir Georges. La réaction de la grand-mère a été de dire, il y a une anomalie dans les gènes, il y a quelque chose qui ne va pas.
Mmh. Voilà. Bon, après,
donc ça m'a d'autant plus blessée.
Oui.
Je me suis fâchée. Et je pense qu'elle l'a dit effectivement, mais bon. Donc du coup, elle a coupé en fait les ponts carrément. Et voilà. Alors est-ce qu'il y a la séparation de son père, pourtant ça date de 15 ans, et comme on ne se parle pas, ils en ont beaucoup souffert, hein, et elle particulièrement.
Oui.
Donc je ne saurais pas. Et c'est pour ça que je reste sur ces interrogations. Et comme je disais à votre collaborateur, mon deuil, je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, à quel stade elle est de sa transition.
D'accord.
Donc, si vous voulez, je n'ai pas pu continuer à suivre son évolution physique de jeune homme. Sur le plan études, je ne sais pas ce qu'elle devient. Voilà, en fait, je ne sais plus rien.
Oui, c'était les questions que j'allais vous demander. C'est qu'est-ce que devient Mathieu ? Est-ce qu'il a réussi son...
Alors, Mathieu, déjà, dans un premier temps, est embryon. Il a fait un bac C. Après, il a fait un bac D. Et ensuite, il a fait une première année de fac de droit, où il a eu 14 de moyenne, et puis il en a eu marre, il a dit non, bon, ça ne m'intéresse pas. Il a fait ensuite une année, la première année c'était sciences éco.
Oui.
C'était, voilà, pareil, première année 14 de moyenne en licence, il a arrêté, il a fait une année de droit, après il a fait une année de langues étrangères, à chaque fois 14 de moyenne, et là il est en psychologie.
Ah, d'accord.
Voilà.
Comme Gabriel.
C'est... Oui, c'est pour ça que j'ai souri.
Ouais.
Voilà, il y a 2 ans, il était en études de psychologie. Et il voulait devenir psychologue.
Qu'est-ce que vous ressentez, Anne, vis-à-vis de Mathieu ?
Beaucoup d'amour.
Oui.
J'ai du chagrin dans le sens où je ne comprends pas pourquoi il ne me parle pas. Alors que pendant 2 ans, je l'ai accompagné. J'ai toujours
Mais
été
oui.
présente
Mais oui.
pendant tout le temps du divorce, qui a été très, très violent. Que j'ai eu beaucoup de... Voilà, mais... Et puis, je lui en veux un peu par rapport à son frère, parce que mais je pense que, comme mon fils est proche de moi aussi, je crois qu'en fait, il a coupé les ponts vis-à-vis de son frère pour pas que son frère, effectivement, me donne des nouvelles. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Après, peut-être que j'interprète mal. Hein.
Non, mais c'est votre interprétation. Il y a plusieurs... plusieurs
Après, voilà, je n'ai pas de... Voilà, je sais quand je fais très attention quand je lui envoie des textos, puisqu'apparemment je ne suis pas blacklistée. Je l'appelle, j'ai essayé plusieurs fois de l'appeler, mais je tombe sur le répondeur. Donc je laisse un message vocal, j'essaie de ne pas l'inonder de messages vocaux, ni de textos, mais dans lesquels je lui assure toujours que ma porte est grande ouverte, que je l'aime et que, voilà, au contraire, que j'espère qu'elle va bien, que tout se passe bien dans sa vie d'étudiant, et je parle toujours au masculin.
Oui.
Mais c'est vrai que ce qui a été le plus dur pour moi aussi, c'est de passer du féminin au masculin.
Oui, je comprends.
Du masculin au féminin, pardon. Oui,
je comprends. Dans l'esprit de maman...
dans les adjectifs. Pas pendant oui. 15 ans, vous appelez votre fille par des surnoms affectifs. Du jour au lendemain, les adjectifs, voilà, petite, on dit plus petite, on dit petit.
Oui.
On dit plus ma chérie, on dit mon chéri. Après, je lui dis mon grand. Voilà, et c'est vrai que au début, c'était pas naturel parce que mon esprit allait naturellement dans un langage féminin et il fallait que je réfléchisse pour parler au masculin.
Oui, bon, après, c'est quelque chose qui, avec l'habitude...
Voilà, mais après, voilà,
ouais,
tout
oui,
à fait.
Bien sûr, ça sent...
Mais voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que mon deuil, j'ai pas vraiment pu le faire.
Ben, je comprends et vraiment, même en étant... détaché, hein. Je vous écoute, je me dis mince, c'est qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de Mathieu? Qu'est-ce qu'il veut encore transmettre comme message en vous mettant comme ça à distance? Est-ce que c'est pour vivre pleinement sa transition? Mais dans ces cas-là, pour quelles raisons? Est-ce qu'il ne vous partage pas justement son épanouissement et son bonheur? Et avec son frère, qu'est-ce qui se passe? Et puis toujours cette barrière avec...
Oui. Mon fils a essayé sur les réseaux sociaux et en fait, il a arrêté les réseaux sociaux.
Mathieu a arrêté les réseaux sociaux ou votre fils?
Non, Mathieu visait son frère.
Ah, d'accord.
Parce que mon fils a essayé de le joindre sur Facebook, pour ne pas le citer, et puisqu'il était inscrit aussi, Mathieu était inscrit sur Facebook, et en fait, je crois qu'il l'a blacklisté.
Oui.
Il l'a éjecté du groupe d'amis. Et du groupe relationnel, et elle a vraiment, enfin, il a vraiment fait le vide autour de lui. Mais bon.
Et il a un Instagram ou un Facebook ou...
Je ne saurais vous dire parce qu'en fait, c'est des pseudos. Donc, il faudrait déjà que je connaisse son pseudo.
Ah oui.
Parce qu'il fait tout sous pseudo. Il ne met jamais son nom de famille ni son prénom. Donc, voilà. Mais après, moi, j'ai son numéro de téléphone. Hein. Pour l'instant, je fais très attention de ne pas être envahissante ou autre parce que depuis 2 ans, j'arrive à envoyer des petits messages. Chaque mois, j'envoie des petits messages, je laisse un message oral. Voilà, je lui parle de tout et de rien, mais je ne rentre pas, voilà, je lui parle de lui, mais je ne rentre pas dans des détails qui pourraient le froisser.
Il vous manque?
Donc, je ne sais pas trop vers où je vais.
Est-ce qu'il vous manque, Mathieu?
Oui, bien sûr.
Oui.
Ah oui, bien sûr. Ben, mes enfants, c'est mes enfants, surtout que je les ai élevés toutes seules. Hein. Donc, on était quand même très fusionnels tous les trois. Hein. Puisque la grande était déjà partie, elle était en dehors de la maison, elle avait déjà quitté la maison.
Oui, ils sont trois. Trois, oui. Puisque j'avais noté au moment du divorce, 10, 14, 20. Donc l'aîné oui.
Est une fille qui a actuellement 37 ans.
Et elle a des nouvelles de son frère, enfin de Mathieu?
En fait, elle ne sait pas qu'il est transgenre.
Ah d'accord.
Parce que l'aîné n'a pas de relation avec les deux derniers de la fratrie. C'est un peu compliqué.
Ah, d'accord.
Parce que le divorce, ça fait beaucoup de mal. Et l'aîné, par contre, là, on sait pourquoi elle a claqué la porte en disant qu'elle ne voulait plus avoir affaire parce que c'est trop compliqué. Et voilà.
Vous savez où elle est, vous savez...
Ah oui, tout oui. à fait, elle est à l'étranger.
D'accord.
Voilà, j'ai son adresse. Non, elle est à l'étranger, donc déjà c'est un peu plus lointain. Mais en termes de transition, à un moment donné, j'ai dit aussi à mon fils, donc à Mathieu, je lui ai dit, écoute, ce serait bien que tu le dises aussi à ta sœur. Je ne voulais plus assumer le rôle de dire la nouvelle à l'ensemble de la famille pour avoir ce genre de réflexion complètement stupide de la part de ma famille.
Je comprends, je comprends.
Et je voulais aussi, puisqu'elle assumait haut et fort, et c'est vrai, auprès de ses amis, elle a toujours gardé ses amis d'enfance. Hein. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts, comme l'a été mon fils. Donc ses amis, elle les a tous gardés.
D'accord.
Ils n'ont pas été choqués par le fait, par sa transition.
Et vos amis à vous? Parce que la famille, bon, voilà.
Alors les amis vraiment proches qui la connaissaient, au début, j'ai du mal à en parler. Je l'ai dit. Il y a une réaction, c'était mitigé. C'était pas méchant, mais de l'incompréhension. Une incompréhension totale sur un sujet dont on ne parle pas, qu'on ne connaît pas. Et je pense qu'il venait plus de l'ignorance, ce qui était mon cas d'ailleurs, avant que je ne le sache.
Ouais, je comprends.
C'était un sujet sur lequel j'aurais jamais pensé que ça pouvait déjà m'arriver, que ça pouvait arriver dans notre famille. Et que, voilà, pour moi, c'était quelque chose qui était à milieu à la ronde. Hein. Donc, quand je l'évoquais avec mes amis, qui la connaissaient, puis eux, ils avaient l'image de la petite jeune fille, voilà, qui était pimpante, souriante, voilà, très féminine. Donc,
ça doit être
mais je pense que...
Ça doit être un très joli garçon aujourd'hui.
Eh bien, je ne saurais vous le dire, parce que moi, je suis restée dans la partie transition. Donc, comme je vous expliquais, avec l'endocrinologue, donc tout ce qui était le côté hormonal, où c'était vraiment une période qui n'était pas très marrante pour lui physiquement. puisque ça amenait beaucoup, la peau était grasse, ça amenait beaucoup de boutons. Mmh. La pilosité venant petit à petit, il y avait aussi, il fallait changer les traitements parce qu'ils n'étaient pas forcément adaptés. C'est pour ça qu'en fait, je trouve que c'est important et que je voulais aussi apporter mon témoignage par
Bien
rapport
sûr.
À cela,
Un grand merci.
Par rapport au parcours médical. Et là, je dis vraiment aux parents qui se retrouveraient confrontés à cette situation de souffrance de leur enfant, mais vraiment qu'il faut que derrière, il y ait vraiment un bon parcours médical. C'est extrêmement important parce qu'il y a de tout et parfois, heureusement qu'elle a été aidée par cette association et qu'elle a eu de bonnes adresses.
Oui.
Parce que vous avez c'était des
la question,
médecins...
C'était la question que j'allais vous poser parce qu'on arrive bientôt à la fin
de
l'émission. Il me vient une idée, Anna. Vous savez, l'émission, donc, vous pouvez vous réécouter en podcast.
Oui.
Et je me disais que ça pouvait être intéressant de copier le lien et de lui envoyer.
Peut-être. Alors, je me dis, j'espère qu'elle sera pas, enfin, qu'elle sera pas fâchée.
J'ai tellement peur votre témoignage est tellement, est tellement un fort et deux, plein d'amour. Voilà, donc qu'il sache qu'il vous manque et que vous aimeriez au moins ne serait-ce qu'avoir quelques nouvelles.
Mais je le lui écris, hein. Je lui écris que je l'aime et qu'il me manque. Et que j'espère surtout qu'il va bien, que c'est ce qu'il m'apporte.
Eh bien, nous aussi.
Et puis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter aussi longuement sur l'antenne.
C'est normal.
Je m'excuse auprès des auditeurs qui devaient passer.
Bah, ils passeront demain. Ils passeront demain, tout simplement.
En tout cas, merci beaucoup à vous,
Chana, vous
et puis à vos collaborateurs qui sont toujours dans une écoute bienveillante.
Qui sont top aussi. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et vraiment bon courage, Anne.
Je vous remercie. Passez une bonne fin de soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Merci donc à Sophia et donc à Anne. On se retrouve demain soir à 22h pour de nouvelles confidences. Tout de suite, le programme de la nuit. Et je vous souhaite donc une douce nuit.